Mais les rebondissements imprévus de l'affaire, incident Isorni, arrestation de Sari, évocation de la fusillade du 26 mars, arrestation du colonel Argout, ne devaient pas modifier l'attitude du procureur général Gertoffer. La défense, unanime dans son effort, tente l'impossible. Parmi les avocats, Maître Rambaud.
La mort pour Buisine, messieurs. Il est vrai qu'on peut bien le fusiller et que personne ne s'en apercevra et que personne nulle part n'en aura d'émotion, sauf vous, Wagner, et moi qui le connaissons, car plus personne, sauf nous deux, ne connaît Buisine. Plus personne, sauf nous deux, ne sait qu'il est un homme. Il est venu, messieurs, au début de votre audience et il s'est assis là, sur le banc. À la place où vous lui avez dit de s'asseoir, il a posé ses deux mains sur ses deux genoux et il a attendu, et il s'est tu. Vous l'avez interrogé et il vous a répondu avec simplicité et sans détour. Il vous a dit ce qu'il avait fait. Il vous a dit surtout pourquoi il l'avait fait, et puis il s'est tu de nouveau et on ne l'a plus entendu. Messieurs, il a une famille dont il est séparé certainement par de graves difficultés familiales, mais il a une femme qui a été sa femme, qui a eu de lui des enfants, dont il est séparé, c'est vrai, mais qui n'a pas écrit, qui n'a pas fait un geste. Il a une mère qui apprendra par les journaux si son fils doit mourir ou s'il doit vivre. Et Maître Wagner et moi, à l'inverse de tous nos confrères, pour tous les autres accusés, nous n'avons pas reçu une lettre. Il n'y a pas un homme qui ait levé la voix pour lui. Vous n'avez pas entendu un témoin. Vraiment, messieurs, on peut vraiment le tuer sans que personne ne s'en aperçoive, et si cela pouvait être une raison pour qu'il soit tué, en quelque sorte en holocauste et en réparation, cela me paraît à moi, et cela doit, je crois, vous paraître à vous une raison pour qu'il ne soit pas tué. Voilà, messieurs, une première raison. Et puis il y en a une autre, et cette autre, c'est le principe évoqué hier par Maître Le Corollaire. Cette autre, messieurs, c'est que vraiment la peine de mort, ça n'est plus supportable. Je suis le second à cette barre à avoir vu mourir Dovkar et Piex. On me rendra cette justice que depuis le 7 juin où ils sont morts, je n'en ai pas beaucoup parlé, je les ai laissés dormir, du sommeil auquel ils ont droit. Et si je réveille le sergent Dovkar aujourd'hui, le petit sergent légionnaire, c'est pour qu'il vienne au secours du deuxième classe de la Légion contre lequel on demande aussi la peine de mort. Je l'ai vu, messieurs, étendu mort à mes pieds, dans l'herbe de juin, sous le jour qui se levait et qui était beau. Il était vêtu de notre uniforme et il portait nos décorations. Je me suis penché. Il était tiède. Il était tiède et chaud encore, mais il était mort. Et j'ai levé les yeux et je n'ai vu nulle part le visage de la justice. J'ai vu les soldats qui se retiraient, tout blancs de craie, un par un, l'arme sous le bras. J'ai vu celui qui avait donné le coup de grâce, qui détournait les yeux. J'ai vu des magistrats et qui n'étaient pas heureux. J'ai vu mes confrères, et nous savions que ça n'était pas la justice qui venait de se faire.
Maître Le Corollaire.
Oui, lorsque la peine de mort est prononcée, le magistrat du ministère public et le président de la cour, dans 98% des cas, sont les premiers à supplier de voir accorder la grâce. Mais rien ne peut leur donner l'assurance qu'il sera fait selon leur volonté. Vous vous souvenez, je pense, J'allais prononcer un nom qui monte sur toutes nos lèvres, mais c'est un nom qui les paralyse. Je ne veux penser qu'à Dovkar et à Piex. Qui avait véritablement songé en les condamnant qu'ils pourraient mourir? Qui n'avait pas souhaité en les condamnant qu'ils ne meurent pas? Hélas, deux hommes qui sont à cette barre les ont vus mourir à l'aube d'une journée d'été, après un long et triste périple sur les routes de la banlieue de Paris. Ils ont vu ces deux jeunes garçons, fiers de leur vie, mais tristes, affreusement tristes de la voir s'en aller, mourir en criant « Vive la France !» dans les plus atroces convulsions. Savez-vous ce que c'est, quelles qu'aient été les fautes commises, de serrer sur son cœur un garçon de 20 ans qui va mourir devant vous? Il est là. Il n'en veut à personne, même pas à la société qui l'a condamné. Ses paroles sont des paroles d'amour, les dernières. Il pense à ses juges et il dit qu'ils ont été des hommes comme les autres. Et il ne leur reproche rien. Il ne pleure pas, mais son sourire est pire que toutes les larmes. Feu ! Et c'est un corps de 20 ans affreusement déchiqueté qui tombe dans des convulsions atroces qui durent, quel que soit le coup de grâce, pendant plusieurs minutes. Personnellement, je ne crois plus, ou plutôt je ne peux plus croire depuis que j'ai vu mourir, que l'on puisse en même temps souhaiter l'abolition de la peine de mort et en même temps la laisser requérir en espérant qu'elle vienne. Il y a sûrement une opportunité politique qui paralyse l'homme et qui est peut-être respectable, peut-être excusable et le contraint de laisser faire. Mais nous, nous sommes avocats, et vous, vous êtes juges. Au moment où il s'agit de la vie ou de la mort de ceux qui sont là, tous les bruits qui nous viennent du monde nous sont indifférents. Nous sommes entre nous. À nous tous, monsieur le procureur général, messieurs, nous-mêmes, à nous tous, nous sommes la justice. C'est nous qui la rendons. Ce n'est pas vous, juge, ni vous, monsieur le procureur général, ni moi, c'est nous. C'est du concert de nos cœurs et de nos intelligences que sort en définitive une décision dont nous sommes en commun responsables. Me voici, messieurs, parvenu au seuil de mes trop longues explications. Je pourrais être tenté de me livrer encore à de longues digressions, parce qu'il faudrait peut-être souhaiter de conserver longtemps la parole si l'on avait ainsi la conviction de prolonger la vie de ceux auxquels on s'est attaché. Mais vous pourriez me reprocher de manquer à votre égard, vous qui avez l'obligation, quelles que soient les tempêtes qui animent vos âmes, de vous taire, vous pourriez me reprocher de manquer de loyauté. Je vous mets en garde contre la vertu de l'exemplarité, car le poignard sacré des régicides brille comme un astre d'éclat sans pareil au firmament de l'avenir. Et je souligne encore le sens profond du trouble de nos âmes. Honneur et patrie, ici la France libre. Vous vous souvenez de ce que disait le général de Gaulle au mois de juin 1940. Honneur et fidélité, telle est la devise imprimée sur les drapeaux de la Légion étrangère. Honneur et discipline, avez-vous pu lire comme moi sur les canons de la marine. Ainsi, chaque fois, semble-t-il, que sont rappelées les vertus qui, en même temps que l'honneur dirige vos armes, l'honneur est à la première place. Aussi, si vous reprochez aux hommes que j'ai l'honneur de défendre d'avoir manqué à la vertu de discipline ou d'avoir oublié une obligation de fidélité, posez-vous la question de savoir s'ils n'ont pas obéi à l'enseignement qu'ils avaient reçu. Honneur d'abord, c'est la voix du général de Gaulle. Quels que soient les conflits qui ont pu naître, ils ont été fidèles à la voix de l'honneur. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ont oublié d'autres voix. Si vous êtes certain qu'il y a eu en leurs âmes un conflit, n'oubliez pas que toutes nos traditions et celles dont le général de Gaulle fut le grand enseignant les invitaient d'abord à choisir l'honneur. Pour cela, il fallait qu'ils soient fidèles aux engagements qu'ils avaient pris. Ils ont tenu parole. À vous, messieurs, maintenant de juger. L'histoire, à son tour, vous jugera.
Le problème se résume, messieurs, en une seule question. Comment un polytechnicien marié, père de 3 enfants, de bonne et honorable extraction, parfaitement assurée de l'avenir, appréciée de ses chefs, unanimement considérée comme un honnête homme, faisant honneur à sa cité comme à son travail, Comment cet homme est-il devenu l'accusé numéro un au procès du petit Clamart? Ah, messieurs, il est bien évident que si l'on avait pu le décorer des qualificatifs d'aventurier, de tête brûlée, de fou, tout cela, nous en serons d'accord, aurait été bien satisfaisant pour l'esprit. Mais ce qu'il y a d'insondable, c'est que ce soit justement Bastien Thiry qui soit aujourd'hui à la place de Bastien Thiry. Et pour la Tocnay, c'est exactement le même cas, à ceci près, comme je vous le disais, que n'ayant été ni l'un ni l'autre au contact des mêmes événements, ils n'ont pas eu les mêmes réactions au même moment, et que les réactions d'un Bastien Thiry ont été plus tardives que les réactions de la Tocnay. On peut bien dire que si complot il y a, il est tardif, car le délibéré profond et vrai n'existe pas à la même date. La Tocnay, il vous l'a dit, s'engagera en juillet 1961. Bastien Thiry, à cette époque-là, continue à accomplir sa tâche quotidienne au ministère de l'Air, quand ce n'est pas à Colombéchard. Ce n'est, en somme, que par la jonction du sentiment profond de l'officier et du patriote que s'est produit ce complexe que nous appellerons désormais le complexe de Lyautey, car je ne crois pas pouvoir le mieux baptiser. Le complexe de l'officier Sas, d'une part, la révolte du polytechnicien, père de famille chrétien, d'autre part, cette jonction, messieurs, n'a pu s'établir qu'en vertu du rapport qui a existé entre les événements et les hommes. Voulez-vous me permettre de vous dire qu'il est dans les privilèges et dans les fonctions essentielles du pouvoir, quel qu'il soit, de prévoir et de mesurer ce rapport entre les événements et les hommes? C'est son devoir. Il doit prévoir l'intensité de l'événement. Il doit prévoir sa brutalité et aussi les incidences de toute nature qui naîtront de cet événement. Il faut prévoir. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui à cette barre que le pouvoir n'est pas prévu. Mais est-ce la première fois que un tel pouvoir est appelé à réaliser des calculs de cette nature? Mais non, bien sûr. Il pouvait constater que les événements allaient avoir une incidence brutale, forte, violente sur les individus, que tout cela était de nature à entraîner des troubles de toutes sortes, voire la révolte de certaines consciences, voire la réprobation d'un certain nombre d'hommes et de femmes. Il pouvait employer des moyens qui sont aussi vieux que le gouvernement des hommes, qui existait déjà au temps de la cité grecque, ces moyens qui se résument en trois verbes: expliquer, consoler, réparer. Merci, monsieur le procureur général, d'avoir bien voulu demander, sans autre commentaire, dirais-je, les têtes de Bastien Thiry et de la Tocnay. Mais avez-vous songé, en les demandant, que le pouvoir, pour des raisons qui nous échappent, que nous n'avons pas à apprécier, a estimé qu'en l'espèce, entre l'événement et l'homme, il ne fallait ni expliquer, ni consoler, ni réparer? Il en a estimé ainsi et vous le représentez ici. Alors croyez-vous, alors qu'on n'a rien expliqué, qu'on n'a pas consolé, qu'on n'a rien réparé, croyez-vous que cette absence de volonté d'atténuation, d'amortissement de la brutalité de l'événement par rapport à l'homme, ne croyez-vous pas que cette volonté de supprimer ne commande pas les circonstances atténuantes à l'égard de tous ceux qui ont reçu de plein fouet, dirais-je, l'événement dans l'esprit, dans le cœur, dans le sang? Ne le croyez-vous pas? Mais voyons, monsieur le procureur général, si, s'adressant à l'esprit des gens, d'abord, le pouvoir avait expliqué à tous ces malheureux en Algérie et à tous ceux qui leur portaient compassion en métropole, avec non seulement franchise, mais avec immense autorité qui s'attachait aux représentants physiques du pouvoir. Celui-ci avait dit, voilà, je suis le général de Gaulle. Je vous ai toujours conduit sur les sentiers de l'honneur. J'ai une explication douloureuse à vous donner mais je vous la dois. L'intérêt national a changé. C'est moi qui vous le dis, qui vous l'affirme. Il comporte une définition nouvelle. Cette définition nouvelle, c'est l'indépendance de l'Algérie. Il va falloir, par conséquent, entre nous, entre Français, sans ruse, que nous essayions de nous tirer d'une situation que vous pouvez, vous, considérer comme désastreuse et pas avec le cœur tranquille. Nous allons tirer cela au clair, ensemble. Puis s'adressant à leur cœur, de leur dire, mais ceci fait, jamais, voyez-vous, jamais la patrie ne vous a autant aimé. Qu'importe que ce soit vrai ou pas, il importe aux hommes d'État et au pouvoir de dire ce qu'il faut pour gouverner. On ne leur demande pas leur pensée véritable, on leur demande simplement de faire en sorte que le petit Clamart n'ait pas lieu. Vous auriez eu l'accueil le plus complet de tout le monde. Il faut savoir tirer les leçons des nécessités crucifiantes de l'intérêt national, expliquer avec cœur et compassion, et puis, aurait-il ajouté, vous aurez aussi perdu vos cimetières, vous aurez perdu vos tombes. C'est pour cela que je me sens encore plus près de vous. Les trois quarts auraient été heureux de s'entendre dire cela. Et les biens que vous aurez perdus, vous allez être rigoureusement et complètement indemnisés. Je dis les biens, les dégâts pour les personnes, les pensions pour les morts, les réparations pour les blessés, cela va de soi. Monsieur le procureur général, vous le savez aussi bien que moi. Pour des raisons supérieures, rien de tout cela n'a été dit, rien de tout cela n'a été fait. On a ainsi créé, tranquillement, les conditions de la révolte. Et le pouvoir, les ayant lui-même créées, demande aujourd'hui par votre bouche qu'il ne soit accordé aucune circonstance atténuante à cette révolte. Qui, je vous le demande, désire prolonger la guerre civile et qui donc s'efforce d'y mettre un terme? Qui a surgi dans l'âme de Bastien Thiry comme dans celle de la Toquenay, c'est une volonté absolument féroce de mettre un terme à une politique qui les avait eux-mêmes crucifiés dans leur âme, dans leur esprit, dans leur cœur. Voilà la vérité. Monsieur l'avocat général, avez-vous discuté cela? Un passage de la sténographie au moment d'une déposition concernant, je crois, le sort des harkis, plus exactement le désarmement des autodéfenses, dans le but de les livrer au FLN. Vous m'avez dit dans un mouvement bien naturel, je vous répondrai, mon cher maître. Mais dans votre réquisitoire définitif, celui-là qui vous engage, celui-là qui voudrait engager la Cour militaire de justice, quel mot avez-vous prononcé pour analyser ces mobiles qui n'ont rien de vil, rien de bas, mais qui sont une réaction saine, une réaction profonde de cœur et d'esprit contre une injustice? Cette même réaction au cours des âges s'était produite en d'autres circonstances. Bastien Thiry, comme la Toquenay, serait traité par le concert ordinaire de la conscience universelle de héros et de martyrs. Nous n'en demandons pas tant. Nous demandons simplement que rien d'irrémédiable, que rien d'irréversible ne vienne ajouter au drame qui est le nôtre, qui est le vôtre. Nous avons vécu tous ensemble, sous des optiques différentes peut-être, mais avec un souci égal, avec un trouble aussi profond, de ne pas ajouter au drame un crime qui durerait bien plus que le drame lui-même. C'est cela que nous vous demandons. Ce n'est pas possible de demander la peine de mort contre Bastien Thiry et la Toquenay, sans discuter leur mobile et sans dire pourquoi leur culpabilité ne peut être atténuée. Votre silence est important. Car aujourd'hui, nous sommes dans le désespoir le plus profond, car des hommes se sont révoltés parce qu'il ne leur avait pas été dit la vérité. Et la Toquenay avait bien raison de vous dire. Si c'était le président Mendès France qui avait fait cette politique, nous n'aurions rien dit. Mais ce qui n'était pas possible, c'était de vouloir nous imposer, au contraire de ce à quoi le général de Gaulle nous avait engagés. Or, messieurs, il ne s'agit pas de réprimer, avant de comprendre. Mais ce que vous aurez compris, c'est que ces deux cadavres feraient plus pour la fin de l'unité française que les efforts qui ont été accomplis contre elle depuis si longtemps. Ne vous dites pas, je vous en prie, qu'ils seront graciés. Ah non. Il y en a d'autres que vous, messieurs, qui se sont tenus ce raisonnement, et je vois encore. Au visage désespéré de juges honnêtes mais trompés, en apprenant l'horrible nouvelle de l'exécution d'une sentence dont jamais ils n'avaient pu penser un instant dans le temps qu'il l'a prononcée, qu'elle serait exécutée. 13 février 1963, c'est la date à laquelle l'Assemblée nationale a voté votre prolongation définitive. Ce même jour, 18 députés, membres de l'Union pour la Nouvelle République, qui avaient approuvé votre prolongation, sans voie de recours possible pour les condamnés, ont déposé une proposition de loi tendant à abolir la peine de mort comme une sorte d'appel, comme une sorte de compensation. Les 18 députés, au nombre desquels on peut noter M. Lecoq, M. Christians, avec des motifs excellents, le jour même où ils vous prorogeaient, proposaient cette disposition, la peine de mort est abolie en France en temps de paix. J'indique avec regret à la Cour militaire de justice que 6 jours après, les auteurs de cette proposition généreuse, qui avait un sens et qui ne vous échappe pas, ont été mis en demeure par l'Élysée de la retirer, et ils se sont inclinés. Ah, messieurs, il est incontestable. Si vous prononcez la peine capitale, elle sera exécutée. Et je ne crois pas que cela soit possible. Je ne crois pas que cela soit humain, mais par-dessus tout, je ne crois même pas que cela soit utile à celui qui la demande. Je ne vois plus rien. Si, pourtant, on m'a dit de tous côtés que depuis le début de ce procès, que ce soit à Saint-Léon de Bayonne, que ce soit à Saint-Jacques de Lunéville et dans d'innombrables autres villes, tous les matins, mais c'est dit pour que la divine providence vous éclaire et vous assiste au moment de votre délibéré. Ne demeurez pas sourds, messieurs, à l'invocation de l'esprit qui tous les matins renaît à la prime aurore, et retenez ces mots que je vous livre avec la plus intense de mon émotion, et in terra pax hominibus. Bonne nuit.